Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce numéro un peu spécial du Temps des Jardins. Bonjour Madame Duvachat.
Bonjour.
Bonjour Agnès. Soyez les bienvenus. Vous êtes une amie de notre antenne. On vous a déjà entendu sur RCF.
Oui, c'est vrai. J'étais venue il y a 2 ans déjà et dans vos locaux à Caen.
Et là, nous sommes par téléphone parce que, évidemment, la situation est très particulière. Mais justement, vous nous faites la joie de proposer une conférence alors qu'on ne peut pas faire de conférence. Vous avez choisi un très beau thème.
Oui, je vais vous parler des jardins de l'Alhambra situés en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Voilà, en ce moment, les frontières sont fermées, nous ne pouvons pas trop voyager, mais je vais essayer de vous faire voyager en ligne grâce à cette conférence proposée par l'Institut européen des jardins et des paysages qui se tiendra en ligne jeudi 6 mai.
Voilà, c'est jeudi 6 mai de 18h à 19h et bon, c'est très proche hein, pour nos auditeurs. Vous êtes invités, chers amis, n'hésitez pas, c'est en accord entre RCF et l'Institut européen des jardins et des paysages. Rendez-vous sur leur site et puis suivez le mode d'emploi, c'est très simple et vous aurez la joie d'entendre Agnès Duvachat de 18h à 19h le 6 mai. Donc vous nous donnez un avant-goût. Ah, un avant-goût. Nous allons évoquer des jardins extraordinaires qui sont au sud de l'Espagne, en Andalousie.
Oui, tout à fait. Cette partie de l'Espagne qui avait été au Moyen-Âge le siège de royaumes arabes, arabo-musulmans pendant plusieurs siècles. Pendant presque 8 siècles, et ces dynasties ont laissé des vestiges de palais et de jardins qui sont finalement parmi les plus anciens jardins historiques d'Europe, hein, puisqu'ils ont été construits à partir du XIe siècle, et ils ont toujours été en usage. Ils n'ont pas été détruits lors de la reconquête, ils ont toujours été entretenus, travaillés, et on peut toujours les visiter.
Alors, vous êtes historienne des jardins, vous êtes également agrégée de philosophie. Et votre intérêt pour les paysages est donc complexe, riche, fort. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ces jardins?
Oui, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, d'une part, l'approche historique de ces espaces, la continuité des traditions de culture, des traditions d'aménagement de l'espace, qu'ils reflètent puisqu'ils s'inscrivent dans une tradition bien antérieure au Moyen-Âge arabe et qui puise ses racines dans déjà la Perse du premier millénaire.
Ah, ouais.
Et puis ce qui m'intéresse aussi plus en tant que philosophe et avoir une approche esthétique de ces espaces, quels sentiments ils ont pu provoquer sur les hommes au fil du temps, quelles émotions, de quel imaginaire sont porteurs ces jardins de l'Alhambra qui ont pu inspirer les poètes, les écrivains, les artistes au fil des siècles.
Je ne vous cache pas que ça fait partie du bonheur de vous inviter à notre radio, parce que ces jardins sont un prétexte à rêver. Et merci de nous ouvrir à la promenade. Alors, où nous emmenez-vous ?
Donc je vais vous emmener dans cette ville de Grenade qui est construite dans une grande plaine fertile, ce qu'on appelle en espagnol la Vega, une plaine cultivée avec des productions horticoles. Mais au-dessus de cette plaine va s'élever 3 collines, c'est ça la topographie du site de Grenade, 3 grandes collines, l'une qui s'appelle le Sacromonte, qui possède d'ailleurs un monastère, le monastère du Sacromonte, un monastère chrétien. Une autre colline qu'on appelle l'Albaïcine, qui se présente comme un labyrinthe de petites ruelles étroites, avec de nombreuses maisons qui possèdent des jardins. Ces maisons de l'Albaïcine, on les appelle les Carmenes en espagnol. Et puis enfin, la 3e colline, qui constitue ce site de Grenade, c'est la colline de l'Alhambra, Al-Amra, qui veut dire la rouge en arabe, la colline tire son nom de la couleur de la terre, de cette terre argileuse qui constitue cette colline. Et donc l'Alhambra, qui est bien sûr un palais, mais on l'oublie souvent, c'est avant tout une ville palatiale. C'était une véritable ville au Moyen-Âge. Elle a comporté, alors c'était pas une ville très peuplée, hein, il y avait 1200 habitants à l'époque. Elle faisait 10 hectares. Et donc cette ville comporte un palais, lieu de pouvoir, lieu de décision, mais il y avait aussi une mosquée, des commerces, des ateliers, des habitations, des bains. Voilà, toute une vie autour de l'Alhambra.
Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Eh ben, aujourd'hui, effectivement, une grande partie de cette ville palatiale a été détruite, mais il reste le centre stratégique de la ville, il reste le palais, les palais qu'on appelle les palais Nasrides. Les Nasrides, c'était une dynastie, la dernière des dynasties arabes à avoir régné sur le royaume de Grenade de 1231 à 1492, puisque l'année 1492 marque, outre la découverte de l'Amérique, elle marque la reconquête de Grenade par les rois catholiques le 2 janvier 1492. Et donc ce sont les Nasrides qui doivent livrer la ville en 1492 à Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, les rois catholiques. Mais ils ont laissé les palais et les souverains chrétiens d'ailleurs ont préservé cette architecture, ont préservé les jardins. Ils ont publié un décret royal ordonnant même de conserver les lieux et aussi de continuer à embaucher la main-d'œuvre des jardiniers et des techniciens qui entretenaient ces espaces pour ne pas que se perde un savoir-faire horticole.
Est-ce que c'était leur politique en général ou est-ce qu'ils avaient été marqués par la spécificité de ces lieux-là ?
Je pense qu'ils ont été impressionnés par la beauté des lieux, le raffinement des lieux, parce que pour le reste, ils ont plutôt pris des décisions visant au contraire à exclure les populations musulmanes, les populations juives, les populations gitanes qui cohabitaient alors à l'époque de l'Andalousie médiévale.
On leur doit donc beaucoup finalement.
Oui, tout à fait.
Alors au cours des siècles, ces jardins ont continué à être entretenus.
Voilà, ils ont gardé ce qui est remarquable en fait, c'est qu'ils ont gardé leur tracé d'origine. Tout à l'heure, vous me demandiez ce qu'il reste des palais Nasrides. Il se trouve qu'au XVIe siècle, Charles Quint a construit un grand palais de style Renaissance, qu'on appelle le palais de Charles Quint, au milieu de l'Alhambra. Et donc, cela a empiété sur une partie des palais, une partie de l'architecture. Mais miraculeusement, cela n'a pas porté atteinte à l'intégrité des jardins dont l'emprise au sol a été maintenue. Donc le tracé de ces jardins demeure. Plus que jardin, on pourrait parler de cours jardinées. Ce sont des jardins clos, des jardins intérieurs à l'habitation, ce que l'espagnol nomme les patios. On retrouve un héritage aussi de la cour intérieure, la cour plantée, comme à l'époque de l'Empire romain, l'atrium romain. C'est cette même forme, en fait, de la cour carrée intérieure qui va se décliner tout autour de la Méditerranée. Et parmi ces jardins, on peut citer, par exemple, les deux cours jardinées les plus célèbres à l'Alhambra. Ce sont d'une part la cour des Myrtes, qui doit son nom aux deux bordures de myrtes taillées de chaque côté d'un bassin central, un long bassin central de 34 mètres de long, bassin rectangulaire. Et puis la cour des Lions, qui elle a une autre forme, elle est structurée par des canaux qui vont diviser l'espace en quatre parties. Et donc là on va retrouver un héritage du jardin en quatre parterres qu'on appelle le Chaharbar, qui est lui d'origine perse, qui remonte il y a bien longtemps.
Les myrtes, les lions, on imagine des parfums, peut-être des sculptures.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Le jardin arabo-andalou est un jardin vraiment fait pour le plaisir des sens. Il faut flatter tous les sens, il faut que ce soit agréable à la vue, à l'œil, à l'odorat. Et donc, notamment, on sait que le myrte, qui était planté dans la cour des myrtes, c'est une variété qui s'appelait le Myrtus latifolia baetica. Donc le myrte espagnol à grandes feuilles, baetica, la bétique, c'était le nom de l'Espagne dans l'Antiquité latine. Ce myrte à grandes feuilles, il avait un parfum très très prononcé, beaucoup plus prononcé que la variété actuelle de myrte commun qu'on a replanté au XVIIIe siècle. Donc il y avait vraiment cette recherche esthétique aussi du parfum, une recherche aussi chromatique. Le myrte a la particularité d'avoir des feuilles d'un vert très très foncé. Et on plaçait ces haies de myrte le long des murs blancs. Si certains auditeurs de votre antenne ont voyagé à Grenade, ils se souviennent peut-être de cette blancheur éclatante des murs, des patios. Et du coup, il y avait un fort contraste de couleurs entre la blancheur des murs et le feuillage vert foncé du myrte. Et donc, on cherchait aussi ce plaisir esthétique qui passe par les cinq sens.
Et il y avait ce bruit incessant de l'eau. Et cette présence de l'eau.
Tout à fait. L'eau était là pour rafraîchir l'espace, pour animer les lieux. Et il y avait une dimension aussi sonore et ça pouvait venir apaiser les visiteurs. Et ce qui est intéressant avec l'eau dans ces jardins de l'Alhambra, c'est qu'elle se limite pas seulement à cette dimension ornementale. L'eau vient aussi vraiment organiser le tracé du jardin. J'ai parlé tout à l'heure de la cour des Myrtes qui s'articule autour d'un bassin central. On va retrouver ce mode d'organisation dans une autre cour jardinée de l'Alhambra qui s'appelle la cour de la acequia. La acequia, ça veut dire le canal en espagnol. Et la cour de la acequia, celle-là, elle se trouve dans le jardin du généralife. Jardin du généralife, c'est le jardin de plaisance, jardin d'agrément qui est situé en face de l'Alhambra. L'Alhambra avait une dimension politique, publique. Les souverains nasrides pouvaient y recevoir des ambassadeurs, des émissaires, tandis que le généralife, juste en face, était réservé vraiment à la famille et aux proches du souverain. Et ce généralife est un jardin en terrasse qui comporte plusieurs cours jardinées, plusieurs patios, dont le plus célèbre est le patio de la acequia, qui est lui aussi divisé en deux parties par son canal central, canal qui va donner le nom au patio.
On a l'impression, à vous entendre, que vous vous y êtes trouvé très bien.
J'ai eu la chance d'y séjourner pas mal de temps et on est très bien là-bas, effectivement.
On sent que cela est apaisant, ça tient aux lignes, à la végétation.
Alors, des lignes d'une très grande simplicité. Il y a finalement une forte rationalité dans ce jardin arabe. C'est le triomphe de la géométrie, hein, des formes rectangulaires, des formes carrées, des formes simples. Et puis, en contrepoint, si j'ose dire, de cette simplicité des lignes, il y a quand même une forme d'exubérance de la végétation. Donc, à l'intérieur d'un espace très clos, très structuré, on va trouver une végétation qui peut s'épanouir un peu librement avec des roses, avec des myrtes, avec des lauriers.
Vous êtes voyageuse, vous êtes philosophe et vous aimez les jardins. Ça doit être un peu difficile en ce moment.
Oui, en ce moment c'est un peu... on voyage depuis chez soi, alors on a le temps de lire aussi, de relire aussi tous ces poètes romantiques, tous ces écrivains qui eux ont fait le voyage en Espagne au XIXe siècle et donc on peut se replonger dans le récit de leur périple en Espagne, effectivement.
Oui, et on pourra donc sur nos écrans avoir cette chance de vous entendre dans le cadre de cette conférence de l'Institut européen. Ça s'est passé comment, cette préparation ?
Mais en fait, vous pourrez entendre le texte de la conférence et il y aura aussi beaucoup d'images, à la fois des photographies actuelles et beaucoup d'images d'archives de ces jardins tels qu'ils ont pu être rêvés ou recréés par les artistes au 19e, au 20e siècle. Quelques reconstitutions aussi en 3D que l'on doit aux chercheurs de l'Université de Grenade qui, depuis une vingtaine d'années, étudient... analyse, font des relevés topographiques de ces jardins. J'essaierai de vous présenter tout ça.
Oui, je me doute bien, venant de votre part, que nous aurons une occasion vraiment importante de nous enrichir et de découvrir quelque chose que même ceux qui sont allés n'ont pas encore compris ou n'ont pas encore vu.
Peut-être, c'est vrai que lorsqu'on visite un lieu, on se laisse happer par la beauté du lieu, on se laisse imprégner, et puis après, quand on revient chez soi, vient le temps plus de la réflexion, de l'histoire, on essaye de comprendre et de savoir un peu, de poser des mots aussi sur ce qu'on a pu ressentir sur place.
Je vous invite donc, chers auditeurs, à retrouver Agnès Duvachat en allant sur le site de l'Institut européen des jardins et du paysage. Et là, on vous guidera. Tout simplement, devant votre ordinateur, au moment où vous le voulez, et si vous le voulez, le 6 mai de 18 à 19h. Un grand merci, Agnès, d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous.
On vous dit à bientôt.
À bientôt.
Au revoir à tous.